Bonjour à tous. Ce matin, j'avais à cœur ce matin de m'inscrire dans le calendrier de ce que nous avons à vivre depuis quelques semaines. Il y a quelques semaines, nous avons fêté Pâques. Vous vous en souvenez ? Et puis, nous avons centré l'essentiel de notre lecture, de l'écriture, de notre compréhension de l'écriture autour du message de Pâques, du salut qui a été réalisé en Jésus-Christ. Et puis si nous lisons les Écritures, nous voyons que cette fête de Pâques s'inscrit dans le calendrier aujourd'hui sur une cinquantaine de jours jusqu'à Pentecôte. Pendant ces 50 jours, souvenez-vous, une semaine après Pâques, nous avons fait une assemblée générale fictive des disciples qui, après avoir vu Jésus crucifié, se retrouvaient et se posaient la question « Qu'est-ce que nous faisons ? Qu'est-ce que nous allons faire maintenant ?» Et puis j'avais fait jouer le rôle du représentant des disciples à Jérusalem et Michel interrogeait effectivement les disciples qui étaient là, en leur disant, bien, qu'est-ce que vous faites maintenant ? Qu'est-ce que nous allons faire, puisqu'il est crucifié, puisqu'il n'est plus là ? Quelques semaines après, nous sommes toujours au même point. Qu'est-ce que nous faisons ? Qu'allons-nous faire ? Pendant plusieurs semaines, pendant 50 jours, dans le calendrier juif des fêtes, eh bien, 50 jours après Pâques, il y avait Shavuot, qui est la fête des moissons, à la fois une fête de réjouissance. Et 50 jours après, à nouveau à Jérusalem, tous les disciples sont rassemblés. Il y a à nouveau foule à Jérusalem pour faire la fête. Et il se passe quelque chose. Jésus a dit aux disciples, eh bien, juste avant d'être crucifié, ne vous éloignez pas, restez là, parce que il vous est préférable que je m'en aille, pour que vous receviez le Consolateur. Et après avoir assisté à Jérusalem à la crucifixion de Jésus, les disciples vont être invités à vivre une nouvelle expérience. Alors, j'aimerais en introduction parler de cette expérience qu'ils ont vécue. C'est le Saint-Esprit survenant sur eux et sur l'Église naissante. Dans l'Ancien Testament, il y avait un prophète qui, plusieurs centaines d'années avant que ces événements n'arrivent, prophétisait en disant ceci, c'est le prophète Joël, chapitre 2, verset 28. Après cela, alors après quoi ? Après que Dieu accomplisse l'œuvre du salut, non, les Juifs ne savaient pas trop sous quelle forme ça allait se faire, mais après cela, quand j'aurai délivré Israël, quand je le proposerai aux hommes un nouveau chemin de salut pour retrouver la réconciliation avec Dieu, après cela, vous dis-je, je répondrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos fils et vos filles. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens auront des visions. Les jeunes gens, c'est aux alentours de 15-16 ans. Hein, dans le terme juif, hein, jeunes gens, c'est aux alentours de ces âges-là. Est-ce que les vieillards, je ne sais pas si je suis dedans, mais ils auront des songes et vos fils et vos filles prophétiseront. Après cela, après que j'aurai accompli l'œuvre de salut que j'ai prévue pour les hommes. Et dans Acte 2, verset 1, l'évangéliste Luc raconte ce qui se passe après la mort et la résurrection de Christ. Cinquantaine de jours plus tard, le jour de la Pentecôte, 50, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, toute l'Église. Ils étaient là, dans le même lieu. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. On se pose la question souvent, comment ces disciples qui, suite à la résurrection, étaient enfermés par la peur, la crainte, le sentiment de ne plus savoir où aller, que faire, comment vivre leur foi et ce salut qui leur a été proposé, vivre même cette dimension de résurrection. Ils étaient dans la peur, dans la crainte. Comment ces disciples-là sont devenus des hommes et des femmes qui ont envahi le monde connu pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ? Comment sont-ils passés de l'un à l'autre, de cet état de quasi-dépression devant la perte de Jésus, pour devenir des victorieux qui avançaient par la foi, allant même jusqu'à la mort pour dire « Je proclame aujourd'hui et maintenant que Christ est ressuscité ». Comment sont-ils passés de l'un à l'autre? Eh bien, ce qui a rendu ces hommes courageux, plein de foi, c'est ce qui s'est passé à Jérusalem au moment de la Pentecôte. J'aime le cinéma et dans un film de Robin des Bois, il y a une épée qui est récupérée par le héros et sur la garde de l'épée, il est marqué ceci. Jusqu'à ce que les agneaux deviennent des lions. Comment ces agneaux sont-ils devenus des lions, des héros de la foi? Eh bien, la seule explication, c'est ce qui se passe à Jérusalem au moment où, rassemblés tous ensemble, ils sont baptisés du Saint-Esprit. Et ce matin, j'aimerais vous parler du Saint-Esprit et du baptême du Saint-Esprit. C'est une promesse que l'on retrouve dans les quatre évangiles. Matthieu rapporte les propos de Jean-Baptiste qui dit « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Jean-Baptiste est clair, il dit « Voilà, moi je viens, je vous baptise dans l'eau, mais c'est un baptême de repentance. La croix n'a pas encore été plantée à Golgotha. Mais celui qui vient derrière moi vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. » Et dans les quatre évangiles, et là pour le coup, les quatre évangiles, aussi bien les synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, que l'évangile de Jean, chacun rapporte les propos de Jésus qui dit ceci, « Moi, je prierai le Père et il vous donnera un consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Jean le répète à plusieurs reprises. Il dira même, si je ne m'en vais pas, vous allez perdre un avantage, c'est que le Saint-Esprit, si je ne vais pas jusqu'au bout de mon chemin et de ma mission, alors le Saint-Esprit ne peut pas être envoyé et vous serez désavantagés. Moi, je suis sûr que quand les disciples ont entendu Jésus dire ça, ils ont dit non, rien ne te remplacera au milieu de nous. Rien ne te remplacera. Ils n'avaient pas la vision de ce que Jésus, au milieu d'eux, devait aller jusqu'à la croix, jusqu'à la mort, ressusciter, et que le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, devait survenir sur eux. Matthieu 3, Marc 1, Luc 3, Jean 1, dit ceci, « Jésus est là et il vous baptisera d'Esprit Saint. » Et j'ai envie de dire que si nous ignorons cette promesse du baptême du Saint-Esprit, alors, cette glorieuse promesse-là, nous passons à côté de quelque chose d'essentiel. Jésus dit, il vous est avantageux que je m'en aille afin que je vous baptise du Saint-Esprit, que le Consolateur vienne. Alors la question est-ce que nous sommes baptisés du Saint-Esprit? Est-ce que nous acceptons que de vivre l'Évangile, le salut de Dieu dans toute sa plénitude? Nous pouvons, comme beaucoup de chrétiens, nous contenter de vivre le salut et que le Saint-Esprit en nous nous fasse découvrir le salut qui se trouve en Jésus-Christ. C'est possible. C'est possible. Nous ne pouvons pas venir à Dieu sans que le Saint-Esprit nous donne la conviction que Jésus est le Fils de Dieu. Ne pas être baptisé du Saint-Esprit ne nous empêche pas de nous convertir et d'entrer dans le salut. On est bien d'accord, hein ? Il y a certains regards que je scrute parce que je sais qu'ils vérifient que je suis bien dans la droite ligne de la doctrine du salut. Ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit qui nous sauve. C'est cette conviction que le Saint-Esprit en nous met, Jésus est mort pour toi, il est ressuscité d'entre les morts. Et nul ne peut dire que Jésus est Seigneur et Sauveur si ce n'est par l'Esprit. Donc on est bien d'accord que le Saint-Esprit nous conduit à la repentance et à la conversion. Mais Jésus dit, c'est Jésus, c'est pas les disciples qui disent, c'est Jésus dit, il vous est avantageux que je m'en aille pour que je fasse venir le Consolateur, l'Esprit Saint, et qu'il survienne sur vous. Alors on fait quoi ? Je ne vais pas vous poser la question qui est baptisé du Saint-Esprit, qui ne l'est pas, mais ça viendra. Ne vous inquiétez pas, ça viendra. Est-ce que cette promesse de Dieu, au travers de Jésus-Christ et de la parole de Dieu, cette promesse-là est une promesse que je prends au sérieux ? Ou bien est-ce que je dis, oh ben moi, être sauvé, ça me suffit. Toutes les églises catholiques, luthériennes, calvinistes, évangéliques, baptistes, etc., ont tous une partie qui accepte le salut et puis qui ne s'occupe pas du baptême du Saint-Esprit. Mais toutes les églises, y compris catholiques, avec le renouveau charismatique, les baptistes, vous avez une partie de l'église baptiste qui va être sensible à cette promesse de Dieu et qui va l'accepter, puis d'autres vont dire, nous, ça, c'est pas trop notre préoccupation. Mais vous avez les églises de Pentecôte au début du XXe siècle qui ont toutes été suscitées avec ce souffle de l'Esprit. Et aujourd'hui, qu'en est-il ? Parfois, on a un peu le sentiment qu'on a honte de parler du baptême du Saint-Esprit, où on le vit en catimini. Est-ce que le baptême du Saint-Esprit, c'est une expérience qui concerne tous les chrétiens ? Et l'évangéliste Luc, dans les Actes des Apôtres, dit ceci, reprend les propos de Pierre le jour de la Pentecôte, qui dit « Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. » Cette promesse, il parle du baptême du Saint-Esprit. Cette promesse est pour vous, pour vos enfants. Ce n'est pas que pour vous au moment de la naissance de l'Église, c'est aussi pour vos enfants et les enfants de vos enfants. Les générations à venir, et même quand il est parlé de tous ceux qui sont au loin, c'est même au-delà du peuple juif. C'est tous les hommes de tous les pays. La promesse du Saint-Esprit est pour tout le monde. Alors, sommes-nous concernés ? Moi, selon l'Écriture, c'est oui. On est tous concernés, non seulement par l'œuvre de l'Esprit qui nous amène à la conversion, mais aussi par cette onction que Dieu veut pour ses fils et ses filles d'être baptisés du Saint-Esprit. Est-ce que c'est différent d'être baptisé du Saint-Esprit que d'être simplement dans, je dirais, la démarche de salut? Dans les Actes des Apôtres, toujours au chapitre 19, on devrait d'ailleurs appeler ce livre non pas les Actes des Apôtres, mais les Actes du Saint-Esprit. Parce qu'il met en avant de quelle manière le Saint-Esprit va transformer ses disciples timorés en ouvriers pour Dieu avec cette expérience à vivre qui les rend capables et aptes de devenir des témoins. Quand l'évangile de Marc se termine « Et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre », pour autant, ils doivent attendre, ils attendent jusqu'à l'expérience du baptême du Saint-Esprit dans Acte 2 pour devenir véritablement des témoins qui partent jusqu'aux extrémités de la terre. Dans Acte 19, alors qu'il était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru Acte 19:1, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ? Et quand je parlais tout à l'heure de notre position aussi très timide vis-à-vis du Saint-Esprit et du baptême du Saint-Esprit, je ne sais pas si beaucoup de pasteurs arrivant dans une église rentrent, ouvrent la porte, rencontrent un frère, tiens, bonjour Michel, est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit ?
Oui.
Ah, lui dirait oui. Mais on trouverait ça un petit peu cavalier, vous ne trouvez pas, que quelqu'un vienne vers vous en disant « Mais est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit ? Tu es dans l'Église ?» Et il dit « Quand vous avez cru ?» Ça veut dire que On peut croire sans être baptisé du Saint-Esprit. Est-ce que vous avez reçu l'Esprit Saint quand vous avez cru ? Donc, il s'adresse à des croyants, à des chrétiens, c'est-à-dire à des hommes et des femmes qui sont entrés dans le salut et qui pour autant n'ont pas forcément vécu cette expérience du Saint-Esprit, ce baptême du Saint-Esprit. Avez-vous reçu le Saint-Esprit ? Et ils lui répondirent, attends, t'es nouveau, toi, t'arrives, on sait qui tu es, mais nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qui leur échappe totalement. Il dit, de quel baptême avez-vous été baptisé ? Et ils répondirent, du baptême de Jean. Tiens, on revient au baptême de Jean-Baptiste. C'est-à-dire celui qui baptisait pour la repentance. Il prêchait la bonne nouvelle, il disait, il arrive derrière moi quelqu'un qui vous annoncera et qui vous ouvrira le chemin du salut, mais moi je vous appelle à vous repentir et à revenir à Dieu. Donc c'était, et pour marquer cela, pour ceux qui disaient, bah oui, on s'est écarté de Dieu, eh bien, il les baptisait, mais d'un baptême de repentance. Ça veut dire qu'il y a un premier baptême, qui est celui de Jean, qui est simplement un baptême pour dire, voilà, on a conscience qu'on est en dehors des chemins de Dieu, donc on prend le baptême pour se repentir et vivre une vie nouvelle. Premier baptême. Et alors les chrétiens d'Éphèse disent, à Corinthe, ils disent, nous on a été baptisés de ce baptême-là, le baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance ? Ok. Disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ça veut dire qu'à Corinthe, Paul a rebaptisé ceux qui avaient été baptisés dans le baptême de repentance, en leur disant, mais maintenant, vous avez à vivre un baptême qui soit celui de Jésus, qui est mort et qui est ressuscité. Tout le monde suit ? Je vois de la perplexité, non ? C'est bon ? Donc il arrive à Corinthe, ils ont été baptisés du baptême de repentance, il les rebaptise dans un baptême qui est le baptême de Jésus. Et une fois que c'est fait, une fois qu'ils ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus, lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient environ 12 hommes. J'espère qu'il y avait des femmes. Mais j'en doute pas. Vous voyez ? Donc, baptême de repentance de Jean à Corinthe, baptême d'eau, et quand ils prient pour ces hommes, ils sont baptisés du Saint-Esprit. Ce passage montre qu'être sauvé est une chose, et que le baptême du Saint-Esprit, c'est quelque chose qui est proposé, c'est une promesse qui est proposée à l'Église et aux croyants. Alors, qu'est-ce qu'on fait de cette promesse-là maintenant ? On la laisse de côté, on laisse ça dans l'épître aux Corinthiens que nous lisons. Moi, je suis en train de lire les épîtres aux Corinthiens dans mon culte personnel. Est-ce qu'on laisse cela de côté ou bien est-ce qu'on se dit, mais alors il y aurait donc un baptême du Saint-Esprit que je pourrais aussi vivre. Juliette, t'es baptisée du Saint-Esprit ? Depuis combien de temps ? Viens nous dire.
Bonjour.
Attendez, problème technique.
Merci.
J'ai fait le coup à chaque fois.
moi, ça a été, c'était en septembre 2011. C'est par un collègue de travail que certains connaissent, Jean-François. Donc, je suis arrivée dans son entreprise en janvier 2011. Et puis, donc on a fait connaissance, on s'est très bien entendu. Il m'a dit, il faut que je te présente ma femme. Et puis voilà, Jean-François étant un évangéliste, il a été petit à petit. Et puis, on a beaucoup parlé. Et puis, un jour, chez eux, j'ai été invitée pour un dîner. Et puis il m'a demandé si je voulais qu'on prie ensemble, qu'on prenne un temps de prière. Et je lui ai dit oui, bien sûr, pas de souci. Et on a eu un temps de prière ensemble. Alors, ça a été assez... sur le moment, je ne me suis pas forcément rendu compte, mais je pense que c'est là que j'ai accepté Jésus dans mon cœur, de manière très naturelle. J'ai senti une grande chaleur. Et ça a été ma conversion. À ce moment-là, vraiment, le don de foi est arrivé. Le don de l'esprit aussi, parce que j'ai eu les deux en même temps. Mais ça s'est fait de manière extrêmement naturelle. Et parce que le Seigneur avait mis sur ma route aussi ce couple, qui ont été vraiment des figures, une figure tout simplement parentale aussi, et des pères et mères spirituels. Et j'étais en sécurité. Et j'ai pu vraiment, presque inconsciemment, me tourner vers la figure de Christ. Et Christ s'est présenté à moi ce soir-là et m'a investi. Ensuite, évidemment, les choses n'ont pas été... ça a été plutôt progressif, mais je me suis rendu compte en me retournant sur ce soir-là que c'était là qu'il s'était passé quelque chose, et que comparé à d'autres où c'est plus diffus, moi il y avait vraiment quelque chose, une pierre que le Seigneur avait posée dans ma vie, une pierre sur laquelle j'allais construire. Et aujourd'hui, 10 ans après, en me retournant, je me rends compte que cette pierre était importante et que j'ai construit bien des choses depuis sur cette pierre.
Alors reste là. Une expérience du baptême du Saint-Esprit. C'est une expérience. Ce jour-là, il y a à la fois l'acte de conversion, il y a à la fois, je dirais, l'Esprit Saint qui, si j'ai bien compris, est venu dans ta vie, est intervenu. Il y a eu un baptême de l'Esprit Saint que tu as vécu. Comment est-ce que ça s'est passé? Ensuite, parce que tu n'avais pas, est-ce que tu avais déjà un enseignement sur, je dirais, cette expérience avec le Saint-Esprit, ou est-ce que c'est quelque chose qui progressivement est venu dans ta vie et a été éclairé, cette expérience-là de l'intervention du Saint-Esprit à ce moment-là?
Oui, par la suite, en fait, je me suis rendu compte, en venant plus régulièrement à l'église, il y avait cette théorie que j'avais, hein, quelque part, parce que je suis d'éducation et de culture catholique, donc, et j'ai fait mon catéchisme, donc j'avais cette notion. Et je me suis rendu compte, en fait, mais après, au moment où j'ai commencé à très naturellement parler en langue, et puis lorsqu'on m'a posé la question aussi, c'est là que je me suis rendu compte, j'ai réfléchi, et je me suis dit, en fait, j'ai pas à le demander, parce que oui, je l'ai.
Ça, c'est intéressant, vous voyez. Il y a des personnes qui se disent, voilà, être baptisé du Saint-Esprit, vivre cette expérience-là, rentrer dans cette promesse de Dieu, c'est quelque chose qui doit correspondre à un cadre. Moi, je fais partie de... Je suis rentré dans l'église apostolique quand j'avais 15 ans, et il y avait un cadre bien précis, c'est-à-dire on faisait des réunions, on demandait à ce que l'Esprit-Saint vienne et qu'on soit baptisé du Saint-Esprit, c'était dédié à ça, il y avait un cadre. Je dirais, à la rigueur, si ça sortait du cadre, on émettait presque des doutes. Hein. Et là, vous avez quelqu'un qui vous dit, moi, j'ai vécu... il n'y avait pas de pasteur, hein, il y avait Jean-François Annette, mais qui sont des bergers aussi, qui ont prié. Ce que j'ai compris, c'est que tu t'es donné à Dieu à ce moment-là. Il y a une vraie rencontre, une vraie conversion. Et que finalement, au fur et à mesure, il y a eu cette prise de conscience. Finalement, il y avait eu aussi, à ce moment-là, baptême du Saint-Esprit. Combien de temps après tu as commencé à parler en langue, par exemple? Un jour, deux jours, un mois?
Je ne me souviens plus.
Tu ne te souviens même pas?
Non.
Et c'est un témoignage, moi je trouve, qui est important, parce qu'il déconstruit des schémas. Il y en a qui sont baptisés du Saint-Esprit, et dans la microseconde qui suit, ils parlent en langue. Puis il y en a d'autres, ça intervient au point de pas... être marqué par la date où ça a commencé. Et puis après, il y a d'autres dons qui sont arrivés, le don de prophétie, puisqu'on on encourage Juliette aussi sur ce terrain-là. Vous voyez, un exemple, un modèle de ce qui est vécu par une personne. Il n'y a pas de schéma. Je te remercie. Alors, le baptême du Saint-Esprit, c'est différent de l'action de l'esprit qui conduit à la conversion, c'est une expérience à part entière. Il y a l'expérience de, de Pierre, vous savez, Pierre qui dit, à un moment donné, avant d'entrer à Jérusalem, à Jésus, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Ce n'est pas l'esprit de la chair qui t'a fait dire ça, c'est l'esprit de Dieu. Et tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Il vit quelque chose de la révélation. Pour autant, il est baptisé du Saint-Esprit, 50 jours plus tard au moins, au moment de la Pentecôte. Donc l'Esprit-Saint l'a conduit à la repentance, à la conversion, mais il vit l'expérience de la Pentecôte 50 jours après. Donc, Pierre a vécu cela. Il y a les apôtres qui vont, étant à Jérusalem, prendre conscience après la Pentecôte que la Samarie avait reçu la parole de Dieu. Ils y envoient Pierre et Jean. Et puis, lorsqu'ils arrivent là-bas, eh bien, ils prient pour eux afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint, car il n'était descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Il y a des expériences qui sont de cet ordre-là. Est-ce que vous avez été baptisé? Est-ce que vous vous êtes converti? Et est-ce que vous êtes baptisé du Saint-Esprit? Si non, pourquoi ne pas le demander tout simplement? Est-ce que c'est nécessaire d'être baptisé du Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut, j'ai envie de dire, est-ce qu'on peut se passer d'une bénédiction? Moi, je suis trop riche, alors on m'a proposé un chèque de 1 million, mais comme j'ai suffisamment pour vivre, je me suis dit non, ça ira bien comme ça, merci. Si c'était la réalité, vous me diriez, toi, tu peux te permettre, c'est ton droit, mais si on m'avait fait la même proposition, j'aurais dit oui, si c'était honnête. Le baptême du Saint-Esprit est-il nécessaire? Est-ce qu'on peut se passer d'une bénédiction? Eh bien, il y a des croyants qui disent, en relisant les Écritures, « Bah oui, c'est pas forcément pour moi ou pour nous aujourd'hui. » Bon, d'accord. Si Dieu prévoit de bénir, peut-on négliger une bénédiction de Dieu? Quel est le risque d'être béni par Dieu? Aucun. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, Jean 16, verset 7, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Lui-même, Jésus, au moment de son baptême, on voit le Saint-Esprit descendre sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » J'ai rassuré Maïna qui a demandé le baptême. Je lui dis « On ne te tiendra pas sur l'eau jusqu'à ce qu'il y ait une colombe qui descende du ciel. Rassure-toi. » Mais Jésus a vécu cette onction de l'Esprit alors qu'il est le Fils de Dieu. Le Saint-Esprit est venu pour l'accompagner là aussi dans son ministère. Alors je crois que le baptême du Saint-Esprit est une bénédiction nécessaire pour chacun d'entre nous, dans nos vies personnelles, pour faire en sorte que le salut devienne véritablement effectif. Vous savez, il y a ce verset de la parole qui dit « Nous sommes transformés de gloire en gloire à la ressemblance de Jésus ». Par l'Esprit. Vous savez, on peut essayer de ressembler à Jésus par nos efforts. Moi, je peux vous assurer que je suis un spécialiste. J'essaye d'abord, et parfois très longtemps, par mes propres forces, avant de laisser le Seigneur m'interpeller et de me tourner vers lui en lui disant « Écoute, là, peut-être que je peux te passer la main. » Mais je suis un spécialiste de l'entêtement, et j'ai beau être pasteur, ça n'empêche rien. Il y a des pasteurs entêtés. Mais moi, je suis spécialiste. Et quand Dieu me reprend, il me dit, « Bon, alors, t'es arrivé au bout, tu as encore des choses, des cartes à sortir, tu veux essayer encore par toi-même » Eh bien, je dis, « Oui, je vais encore essayer. » Je ne le dis pas consciemment, mais dans la réalité, c'est ça. Jusqu'au moment où je dis à Dieu, « Mais Et maintenant, si toi, tu reprenais la main. Le baptême du Saint-Esprit, c'est accepter que l'œuvre du salut dans lequel on est entré devienne une réalité. Parce que essayer de se transformer tout seul, par ses propres forces, c'est courir à l'échec. C'est difficile, chers amis. Très difficile. Vous avez essayé, vous ? Non, vous êtes plus saint que moi, alors. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Être baptisé du Saint-Esprit, c'est nécessaire. Jean-Louis, t'es baptisé du Saint-Esprit, toi ? Oui. Tu me diras, comme tu prophétises, on se dirait, s'il disait non, ça serait bizarre. Tu pourrais nous dire comment ça s'est passé pour toi ? Et je sens que ça ne va pas être le même témoignage que Juliette.
Non, t'inquiète pas.
Mais c'est parce que j'ai préparé un peu les choses, j'avais dit 5 minutes, alors sortons le papier.
J'ai pas de mémoire et quelqu'un en a été témoin dimanche. Au sortir du culte, j'étais incapable de dire sur quel était le thème de la prophétie qu'a donné Julien.
D'accord.
Donc c'est dire que oui, je suis obligé de noter. Voilà, mais bon, le Seigneur est bon, il est là, il me tient debout. Il faut remonter presque 50 ans en arrière, d'accord ? Ça nous met à l'été 1972 et très précisément à la mi-août. Nous sommes tout juste mariés et nous décidons de commencer nos vacances d'été par une retraite spirituelle. Nous sommes donc au troisième, peut-être quatrième soir, et le thème de la soirée est la recherche du Saint-Esprit. Alors je suis partie prenante parce que pour tout vous dire, avant même qu'Agnès ait été baptisée d'eau, elle a été baptisée du Saint-Esprit, j'en ai été le témoin. Et moi, quelques mois après, je ne l'étais toujours pas. Alors, je n'étais pas jaloux, mais ça me titillait quand même. Et j'avais vraiment le désir de recevoir ce baptême. À cette recherche du baptême du Saint-Esprit, dans cette soirée, trois pasteurs sont présents. Pasteur Eusé, pasteur Charles et pasteur Taubois, c'est-à-dire Jean-Marc Taubois, que vous connaissez bien. Nous sommes là, dans une pièce, nous sommes peut-être 80, 100 personnes, en tout cas certainement pas 120, mais nous sommes là recueillis. Il faut savoir que les portes ont été fermées, c'est le soir, et les fenêtres ont été fermées également, sont fermées. Et voilà qu'alors nous sommes recueillis dans un grand temps de silence, un grand moment de silence. J'entends. Alors je ne sais pas si d'autres personnes présentes l'ont vécu, mais j'entends souffler comme un vent tout léger qui vient, qui va au-dessus de l'auditoire. Et alors, des voix s'élèvent, elles parlent en langue. C'est l'esprit qui se mouvait sur cet auditoire. Et j'entends donc ce vent qui passe et repasse, et plusieurs baptêmes du Saint-Esprit ont lieu à ce moment-là. Alors, devant un tel moment béni, les pasteurs font la demande, hein, comme Jean-Marc l'a laissé entendre tout à l'heure, la foi. Il demande que qui n'est pas béni du Saint-Esprit et il invite ces personnes à s'approcher d'eux, à venir au-devant. Et donc, je me lève et puis j'y vais, nous sommes plusieurs. ces trois pasteurs viennent vers moi. Et avant même qu'ils aient posé leurs mains sur moi, je crois même bien qu'ils ne les ont pas posées, avant même que le premier pasteur qui a prié termine sa prière, je me mets à parler en langue, d'une manière très distincte, mais d'une manière importante. Ce n'était pas un murmure, hein, ce n'était pas quelques petites syllabes prononcées, non. C'était un vrai parler en langue, avec des consonances bien distinctes, et ce fut un baptême de puissance, un baptême de feu. Alors je voudrais ajouter, je ne vais pas être long, hein, tu vois, ça va. Hein.
Encore 2 minutes, merci.
Merci. Quand nous avons été contraints à l'été 2012 de nous mettre en recherche d'une assemblée chrétienne, ma prière a été la suivante. S'il te plaît, mon Dieu, ne me prive, ne nous prive jamais de ton esprit, mais que nous trouvions une église que le Saint-Esprit anime et où se manifestent les dons spirituels. Nous sommes arrivés en piteux état dans un dimanche matin, ici. Nous avons été accueillis par Michel, très bien accueillis, qui ne nous a posé aucune question. Et cela, nous avons apprécié. Et très vite, nous avons également apprécié la manière d'être et de faire les choses avec sérieux, et également cette liberté qu'il y a dans cette Église qui est donnée à l'esprit de s'exprimer. Et puis je le redis à chaque fois que j'en ai l'occasion, il y a eu aussi cette bonne communion fraternelle à laquelle nous étions en train de goûter parce que nous avons été vraiment bien accueillis. Voilà ce que je pouvais dire.
Alors, on est face à un témoignage qui est un témoignage d'un baptême du Saint-Esprit dans une réunion prévue pour cela et donc pour la recherche du Saint-Esprit. Tu as dit que dans cet espace-là, tu as eu même des sensations physiques d'un souffle qui vous entourait, etc. Oui. On est sur un autre témoignage que celui qui nous a été donné par Juliette, où là, c'était dans une maison avec 2 personnes, etc. Et il y a quelque chose qui s'est posé tranquillement et qui s'est vérifié quelques jours, quelques semaines après, où le parler en langue est venu, progressivement, et puis aussi d'autres dons. Là, on est sur quelque chose que on a entendu, un baptême, l'Esprit Saint, parler en langue. Alors parfois, il y en a certains qui disent, moi, je veux bien être baptisé du Saint-Esprit, mais à condition de ne pas parler en langue. Hein? Ou de ne pas faire des choses qui soient étonnantes. L'Esprit Saint est respectueux. Et c'est en fonction, a priori, de ce qu'on lui laisse vivre et prendre de place en nous que les choses se vivent. Tu as eu une parole prophétique rapidement, ensuite,
oui.
Combien de temps après ?
J'ai reçu une parole prophétique l'année suivante, autant que je sache, dans le même lieu, d'un pasteur qui m'a dit « Tu seras le petit prophète au pied du prophète. »
D'accord.
Bon, je n'ai rien dit à personne. Peut-être même je n'ai pas partagé avec Agnès, alors qu'on partage beaucoup. Mais là, j'ai gardé ça pour moi, parce que je l'ai reçu. Et quand nous sommes retournés dans l'assemblée, le dimanche, donc, après la réunion d'évangélisation de l'après-midi, avant la réunion, pardon, le pasteur me dit, « Jean-Louis, j'aimerais vous parler, j'ai besoin de vous voir. Mm-hmm. » J'étais jeune converti, hein, puisqu'on s'est fait baptiser en juin 1972, quoi, donc toujours dans la même année. Quoi. Et là, il me dit, voilà, j'ai besoin de votre main d'association. J'aimerais que vous puissiez être à mes côtés. Mmh. Et donc, j'ai réalisé cette parole que j'ai donc reçue quelques jours auparavant. Et je n'ai pu que lui dire oui, parce que cette parole était présente en moi, et j'ai su que c'était la volonté de Dieu. Quoi. Et là, je suis entré dans un service qui a duré auprès de lui 25 ans, je crois.
Amen.
Voilà.
Voilà un témoignage sur l'expérience du Saint-Esprit. Je te remercie, Jean-Louis. Alors, est-ce que le baptême du Saint-Esprit est nécessaire ? La parole de Dieu nous dit que oui, pour que le salut que nous avons reçu, je dirais, nous puissions y entrer dans toute sa plénitude, et pas par notre seule force. Alors, quelles sont les clés d'un baptême du Saint-Esprit ? Dernièrement, quelqu'un me disait, moi, ma pensée, c'est que je prendrais le baptême le jour où je serai pur. Et puis un jour, elle s'est rendue compte que finalement, ça risquait d'attendre longtemps. Donc elle s'est dit, j'ai réalisé que le Seigneur me disait, attends pas d'être pur pour prendre ton baptême, sinon tu ne le prendras jamais. Et puis j'ai envie de dire, mais est-ce que le baptême du Saint-Esprit, c'est, est-ce qu'on est baptisé du Saint-Esprit quand on est parfait, quand on a tout compris du salut de Dieu ? Non plus. Les clés d'un baptême, c'est d'abord être converti. Lorsque l'apôtre Pierre s'adresse à la foule dans Actes 2, il leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » C'est-à-dire que la première condition, c'est tout simplement d'être à Christ. Parce qu'on ne peut pas être baptisé du Saint-Esprit si nous ne sommes pas déjà à Christ, si nous n'avons pas vécu une véritable repentance et une véritable conversion. C'est la première des conditions. Si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit et que ce matin le Seigneur te parle, la première condition, c'est tout simplement, est-ce que tu crois que Jésus-Christ est ton sauveur ? Est-ce que tu es passé par la conversion et aujourd'hui, il est celui que tu veux suivre ? Et tu constates que c'est difficile de vivre sa vie avec Christ et qu'on a besoin de l'assistance du Saint-Esprit. Alors, cette parole ce matin, elle est pour toi, oui ? Il y a une clé pour toi pour avancer et vivre cette expérience, cette promesse de Dieu. Ce n'est pas simplement une expérience, c'est une promesse de Dieu et de Christ qui dit « Il vous est profitable que je parte pour que vous soyez baptisés de l'Esprit ». La deuxième clé, c'est d'être un fils qui accueille l'Esprit sur le fondement du salut de Jésus. Dans Galates 5, 6, chapitre 4, verset 6, Paul dit « Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie « Abba Père ». Déjà, l'Esprit Saint m'a fait rentrer dans cette dimension. Je suis fils ou fille de Dieu. » Ah, est-ce que c'est ton cas, là, ce matin ? Je suis sûr qu'il y a encore parmi nous des personnes qui ont vécu ce baptême de l'Esprit, cette promesse de Dieu dans leur vie personnelle. Comme Laurence, tu as reçu le baptême du Saint-Esprit ? Il y a combien de temps ? 20 ans ! Quand elle m'a dit ça au téléphone, je lui ai dit, mais c'était à 7-8 ans alors. Viens nous dire comment toi tu as vécu le baptême du Saint-Esprit dans ta vie.
J'avais plus que 7-8 ans. En fait, pour moi, ça s'est passé de manière totalement différente de ce qu'on a entendu, effectivement. Déjà, pour ma nouvelle naissance, je pense que je suis née de nouveau sans avoir le concept de ce que c'était la nouvelle naissance. J'ai vu quelque chose, une rencontre avec le Seigneur. Et c'est bien après, en ayant la plus de connaissances des Écritures, que je me suis dit « Ah, c'est à ce moment-là que je suis née de nouveau ». Et pour le baptême du Saint-Esprit, donc en fait, moi, j'ai grandi dans une famille catholique et c'est vrai que j'étais très engagée dans l'Église et proche du renouveau charismatique. Et j'ai entendu parler de ce baptême du Saint-Esprit très brièvement en disant « vous pouvez le demander, et puis peut-être que voilà, si tu le demandes, tu vas peut-être parler en langue ». J'ai entendu ça et je me souviens de m'être assise sur mon lit, de m'être mise à prier et et d'avoir parlé en langue. Et ça m'a fait peur, en fait, parce que je n'avais pas les connaissances. Et je me suis dit, d'où ça vient? Est-ce que ça vient du Seigneur? Et pendant quelques années, j'ai laissé ça sous cloche. Et jusqu'à ce que je rencontre des personnes et j'étudie davantage aussi les Écritures et que je comprenne en fait que se parler en langue, ça venait du Seigneur, c'était pas quelque chose de dangereux. J'avais peur en fait de déshonorer le Seigneur en prononçant des mots que je comprenais pas. Et donc je peux pas dire exactement quand je l'ai reçu, mais je l'ai un petit peu reçu sans le réaliser. Et après forcément voilà, ça a grandi aussi et c'est dans l'intimité qu'on entretient avec le Saint-Esprit aussi qu'on développe le parler en langue, qu'on développe aussi voilà tous les dons qu'on peut recevoir et voilà.
Mais pour ceux qui sont là qui sont pas baptisés du Saint-Esprit, ouais. En quoi ça t'a aidé dans ta vie personnelle de manière concrète mais aussi dans ta vie spirituelle de vivre cette expérience du baptême du Saint-Esprit? En quoi ça t'a aidé?
Alors déjà, c'est un petit peu compliqué parce que j'ai l'impression que c'est presque toute ma vie chrétienne. Il n'y a pas eu trop de... Je ne suis pas baptisée du Saint-Esprit, je suis baptisée, j'ai pas... Tout s'est passé à peu près vers 17-18 ans, donc je ne sais pas, c'est à quelques mois près. Donc. Mais comment ça m'aide c'est un baptême de puissance et c'est des expériences de prière, d'intercession, de combat spirituel où le Saint-Esprit en fait, prend tout le contrôle. Pour moi, c'est ça, je pense à ça en ce moment, où nous, on est juste ses instruments et on le laisse totalement agir. C'est être baigné du Saint-Esprit. Voilà.
Donc ça a été une aide dans le sens où le baptême du Saint-Esprit, c'est une puissance qui t'aide à entrer dans des dimensions spirituelles et à vivre des choses avec Dieu.
C'est ça, oui.
D'accord.
Ouais.
Quand tu disais que y a une phase où tu as eu peur de ce que tu vivais parce que tu ne savais pas ce que c'était, c'est ça?
Oui.
Comment tu as été rassurée alors concrètement?
En discutant avec des personnes qui m'ont dit « Mais non, mais je vois bien comment tu vis, tu es chrétienne, je vois que le Saint-Esprit est en toi, ça ne peut pas venir d'ailleurs, personne n'a prié pour toi, tu aurais imposé les mains d'une manière bizarre ou tu aurais reçu quelque chose de bizarre. » Non, tu as vécu quelque chose, une expérience et tu parles en langue, entretiens ce don, il faut le faire grandir et voilà.
J'aime bien ce témoignage-là parce que autant il peut y avoir quelque chose d'organisé, dans l'église autour du baptême. Là, c'est une expérience tout à fait personnelle dans sa chambre. Personne n'est venu lui imposer les mains ni quoi que ce soit. Ça veut dire que c'est possible aussi de vivre le baptême, l'onction de l'esprit, seul face à Dieu. Et je trouve que ce témoignage-là, il est très intéressant. Je te remercie.
Merci.
Tu veux aussi témoigner, toi? Non. Alors, je disais, il faut la clé pour être baptisé du Saint-Esprit, c'est tout simplement de vivre une vraie conversion, de se savoir être fils de Dieu. Et je dirais, il y a une clé aussi, mais alors qui est simplissime et pourtant essentielle, c'est de le vouloir. D'avoir le désir d'être baptisé du Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas sur la base des témoignages que vous avez entendus, qui peuvent vous aider à cheminer par rapport à ça, mais c'est tout simplement d'avoir en vous ce désir devant Dieu en disant « Seigneur, je ne savais pas que c'était une promesse pour moi. Je ne savais pas ce que ça pourrait représenter là aussi pour ma marche avec toi, pour vivre une nouvelle dimension de vie, entrer davantage dans ton salut. Alors, j'ai envie de le recevoir, cette promesse de la recevoir dans ma vie. » Dans l'évangile de Jean, chapitre 7, verset 37, « Le dernier jour, le jour de la grande fête, Jésus, se tenant debout, s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. » Si vous voulez recevoir les promesses de Dieu, il faut en avoir envie. Jésus dira, il faut avoir soif de ça. Si on n'a pas soif, si on n'a pas envie, on le laisse de côté. Vous savez, on est dans un monde, dans une société, on est tellement bien nantis. On a tout ce qu'il nous faut. Cette semaine, on a appris le décès de la femme du pasteur Kaboré au Burkina Faso. Il était venu il y a environ 30 ans ici et on l'avait accueilli pendant une quinzaine de jours. Et quand il était reparti, je vous ai raconté cette histoire il n'y a pas longtemps, mais quand il est reparti, on avait vraiment vécu un temps de communion fraternelle. Rémi était là aussi, je crois.
Et quand il est reparti, on voulait lui faire un cadeau. Alors, ce n'était pas la Tour Eiffel en porte-clés, mais presque ça. C'est-à-dire lui donner un souvenir de la Bretagne. Et lui, il nous a dit, vous voulez me faire plaisir ? Donnez-moi des graines. Donnez-moi des semences de tomates, de salades, de légumes pour nourrir les élèves du collège biblique qui se forment pour le service de Dieu, pour les nourrir, eux et leur famille. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on était décalé. Lui, il était dans la faim et la soif des choses, et nous, on était des nantis. Pour avoir et pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, il faut le vouloir et en avoir envie. Est-ce que cette promesse de Dieu, cette promesse de Jésus, c'est une promesse qui, aujourd'hui, me fait envie ? Ça t'a fait envie un jour, Patricia, de recevoir ce baptême de l'Esprit-Saint ? Il y a combien de temps ? Tu sais pas trop. Tiens, ça c'est un très récent comme réponse. Approche-toi. Quelqu'un qui dit « je sais pas trop quand ça s'est passé ». Vous savez, c'est comme ma femme qui me dit « moi je me suis converti tel jour, à telle heure, il y avait un tel à ma droite, un tel à ma gauche ». En plus, je connaissais des personnes avant de la connaître. J'ai rencontré des personnes qui m'ont dit « oui, c'est vrai, on était tous les trois ensemble ». Et puis moi, je peux pas dire le jour où je me suis converti. Et là, Patricia nous dit « oui, moi je l'ai vécu, mais je sais pas quand ». Alors comment on peut vivre ça comme ça ? Raconte-nous.
Alors ben oui, ben je me suis convertie, ça je sais quand même, il y a 18 ans. Mais c'est vrai qu'après, assez rapidement, j'ai demandé, j'ai eu envie de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Alors comme j'avais grandi dans une famille chrétienne, évangélique, j'ai toujours entendu ma mère en fait prier en langue, parler en langue. Donc je pense que ça... C'est un petit peu... Déjà, ça m'a donné envie de le connaître, et du coup, enfin, de connaître ce baptême. Et en même temps, c'était quelque chose de presque naturel. Donc, je me souviens, quelque temps après ma conversion, avoir lu un livre sur le don du Saint-Esprit. Et à la fin du livre, il y avait une invitation à la prière pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Donc, j'ai prié. Et puis, rien.
Du coup, flammes de feu qui sont descendues ?
Ben non.
Même pas.
Bon, alors après, j'ai continué donc à douter, en fait. C'est le doute qui est resté jusqu'à ce que, en fait, le Seigneur m'a fait grandir, évidemment, me faisait grandir, mais j'avais mis de côté un petit peu cette demande. Et je me souviens quand même bien d'une étape dans ma croissance où je me suis sentie chrétienne en premier, en fait. J'ai senti que ma foi avait pris la première place. Ça, je me souviens d'une étape où... vraiment comme si ma foi était devenue naturelle, voilà, comme si c'était devenu naturel, c'était devenu plus évident qu'avant. Voilà, donc je me souviens de cette étape parce qu'elle était très forte, mais je ne saurais pas dire quand, et je n'avais pas fait de rapprochement avec ma prière d'avant, ce qui fait que le doute est resté toujours en moi, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, où avec des sœurs, on priait. Et à chaque fois qu'on me demandait « Est-ce que tu es baptisée du Saint-Esprit ?» Ben, je disais « Je ne sais pas ». Donc, je n'étais pas très fière de cette réponse. Et voilà. Et donc, un soir de réunion de prière où on a prié pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, en fait, le Saint-Esprit m'a révélé que j'étais déjà baptisée du Saint-Esprit. Donc, là, ça a été enfin un peu une libération. Bon, c'était un peu particulier, du coup, c'était mon manque de foi qui ne m'avait pas fait prendre conscience qu'il m'avait tout donné. Mais à ce moment-là, il me révélait que ben, voilà, c'était déjà fait depuis même un moment. Mais j'étais soulagée, j'étais remplie de joie et de paix. Bon, je ne suis pas très fière parce que c'était vraiment le manque de foi qui ne m'avait pas fait le voir. Mais voilà, le Seigneur est patient et voilà, je vous le raconte quand même parce qu'on m'a demandé...
Reste là, parce que ce témoignage-là, moi, je le trouve aussi très intéressant. Tu as vécu un moment où, dans ton intimité avec Dieu, tu as senti que tu étais passé à un stade où il y avait la foi en premier dans ta vie, c'est ça ?
Oui.
C'était quelque chose qui était là aussi de diffus, que tu as vécu, pas forcément d'une manière très tranchée.
Non, c'était une étape.
Mais une étape,
ouais.
Mais qui était posée en toi,
ah oui.
Et dont tu as pris conscience.
Ah oui.
D'accord. Tu entendais tes parents auparavant parler en langue?
Oui, c'est aussi pour ça, le parler en langue, du coup. Je sais qu'après cette étape-là, dans mes prières, je me suis mise à des moments à ne plus prononcer de mots, mais des syllabes. Mais je m'arrêtais assez vite parce que je me disais, mais voilà, qu'est-ce que tu fais? Je ne suis pas légitime. Et ça, c'était vraiment, je pense, un peu la confusion, en fait, que pour moi, le parler en langue était relativement... Enfin voilà, je l'avais entendu et du coup je savais plus si je me mettais à prier par imitation et du coup je me réfrénais, voilà.
D'accord.
Voilà.
Très bien. Alors je trouve ce témoignage intéressant parce que quelqu'un qui dit le Seigneur m'a dit en quelque sorte arrête-toi de demander, tu es déjà baptisé, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Hein? Alors je sais pas si c'est par un manque de foi, mais en tout cas c'est ton parcours et ton cheminement. Et aujourd'hui tu peux dire avec plaisir que tu es baptisé du Saint-Esprit et que tu laisses l'Esprit Saint. Voilà. Alors ça se manifeste comment différemment d'avant, cette onction de l'Esprit, ce baptême du Saint-Esprit?
Je demande au Seigneur qu'il y ait davantage de clarté peut-être dans l'expression de ça. Je dirais que j'ai eu des prières où j'étais vraiment inspirée, où je me rendais compte qu'il y avait... Voilà, c'était pas mon intelligence forcément, mais que le Saint-Esprit se servait de moi pour dire des choses lors de prières. Voilà, j'ai pas encore.
D'accord. Donc tu grandis dans ce don de l'Esprit Saint et cet abandon à l'Esprit pour qu'il t'utilise dans différents domaines. Amen. Merci.
Je voulais juste partager juste un verset parce que hier quand tu m'as demandé, du coup j'ai dans ma lecture quotidienne.
C'était organisé tout ça?
Non, oui, c'était organisé, ouais, il m'a demandé hier. Mais voilà, et je lisais hier soir, du coup je me dis, ben voilà, voici pourquoi nous sommes pleins de confiance devant Dieu. Quand nous lui demandons quelque chose qu'il trouve bon pour nous, il nous écoute. Nous le savons, Dieu écoute toutes nos demandes. Alors ce que nous lui demandons, nous l'obtenons, c'est sûr. Je vous le lis parce que du coup, moi j'avais eu du mal à le prendre pour une certitude. C'est dans... la première lettre de Jean, chapitre 5.
Merci.
Est-ce que vous avez envie de recevoir l'Esprit Saint, de vivre cette promesse de Dieu? La base, c'est tout simplement de demander par la prière et par la foi. Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste vous donnera-t-il le Saint-Esprit si vous le lui demandez? Recevoir une puissance dans ma vie qui rend mon salut effectif, une puissance qui peut me transformer à l'image de Christ, une puissance en vue du service par les dons de l'Esprit. Il n'y a pas que le parler en langue, il y a les paroles prophétiques, les paroles de sagesse, les paroles d'intelligence, le discernement des esprits. Il y a plein de dons qui accompagnent le baptême du Saint-Esprit. Alors, ce matin... est-ce que tu as envie que le Saint-Esprit te fasse vivre cette dimension-là dans ta vie? On va incliner nos têtes et fermer nos yeux. On ne va pas faire venir de personnes devant pour qu'ils s'exposent au regard des autres. Mais simplement, inclinez vos têtes, fermez vos yeux et tournez-vous vers vous-même. C'est ce qu'il est dit du Fils prodigue, regardant en lui-même. Si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, est-ce que ce matin tu veux demander à Dieu? Dans ton cœur, pas à haute voix, on ne va pas faire du spectacle. Mais demander à Dieu qu'il te baptise de son Esprit Saint. Est-ce que tu as conscience ce matin que ce baptême de l'Esprit, c'est une promesse de Dieu pour celui qui croit, qui lui appartient, pour rentrer dans son salut? Est-ce que tu crois ce matin? Est-ce que tu as envie de cette onction, de cette bénédiction de Dieu? Dans ton cœur, tu dis oui, Seigneur. On a entendu, ça peut être une réunion particulière, comme Jean-Louis, où on se tourne et on cherche. Ça peut être dans l'intimité de sa chambre, comme Laurence. Ça peut être dans une marche avec Dieu, pas après pas, comme avec Patricia. Ça peut être dans la maison d'un ami qui nous ouvre les yeux sur le mystère de l'amour de Dieu. Et là, l'Esprit Saint intervient. Veux-tu ce matin dans ton cœur dire à Dieu, j'ai soif. J'ai soif, Seigneur, maintenant. Je veux que ton Esprit Saint vienne sur mon être tout entier. Je ne veux pas avoir peur de crainte. Je te fais confiance, Seigneur. Ouvre-toi à l'onction de l'Esprit maintenant. Laisse l'Esprit de Dieu entrer dans ta vie, dans ton être tout entier. Abandonne-toi à Dieu. Laisse son salut entrer dans une dimension nouvelle. C'est une promesse de Dieu pour toi ce matin. Pour toi. Ne t'occupe pas de l'autre assis à côté de toi, de ce que tu connais. Lâche prise tout simplement en disant à Dieu maintenant, je veux connaître cette bénédiction. Elle est pour moi, Seigneur. Je veux laisser ton Esprit Saint pénétrer ma vie. Être baptisé, c'est-à-dire immergé dans ton Esprit Saint. C'est mon choix. C'est mon désir. Soro du Sereyan, Poro du Quarte de Lion. Il n'y a pas de système, il n'y a pas de forme particulière, simplement ouvrir sa vie, son être tout entier. Laissez le Saint-Esprit entrer dans notre vie. C'est la promesse de Dieu et Dieu n'est pas menteur. Laisse le Saint-Esprit, accueille-le, reçois-le. Ne te fie pas à tes sentiments, tes ressentis, simplement laisse l'Esprit de Dieu entrer dans ta vie maintenant. C'est une promesse de Dieu pour toi. Alléluia. Alléluia. Tu vois, Seigneur, et tu connais le cœur de chacun. Tu vois ceux qui, ce matin, se tournent vers toi dans la sincérité de leur foi. Ils t'ont rencontré, ils te connaissent. Tu vois leur désir maintenant de vivre cette bénédiction, cette promesse qui vient de toi. Comme il est avantageux de te connaître, d'être fils et fille de Dieu, et de laisser l'Esprit Saint entrer dans notre vie, recouvrir notre vie maintenant. Seigneur Jésus, nous ne voulons pas ignorer la bénédiction qui se trouve en toi et que tu répands sur nos vies. Maintenant, Seigneur, accomplis cette œuvre de vie, cette œuvre glorieuse. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut chanter ce chant, ce petit cœur qui dit « Viens, Esprit de Dieu ». Est-ce que vous arrivez à le trouver dans le répertoire pour qu'on termine sur ce chant ?« Viens, Esprit de Dieu », c'est le combien, Rémi ? Qu'on puisse simplement... Oh, il est tout simple à chanter. Il dit simplement « Viens ». Esprit de Dieu, descends sur nous maintenant. Le 364 pour l'appareil. Et on chante ce chant en restant dans la prière et puis on terminera sur ce chant.
Descends nous maintenant.